Boleh.
Un jour, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose en plus ou en moins. Hein? Donc j'avais cette espèce de maladie qui a été pour moi une maladie honteuse et je me suis caché. J'ai caché la musique. Voilà. Parce que vous savez, on se moque. Lorsqu'on connaît les gens, hein, on se dit, ah, comment ça va, vous êtes... Bonjour, bonjour. Mais lorsqu'on ne les connaît pas, hein, supposez que moi j'arrive ici à Nancy, que j'ai à dire ce que j'ai tout ça, tout ce que j'ai fait, que je l'ai fait tout seul. Je viens ici. Qu'est-ce que vous me dites? Hein? On n'a pas le temps, monsieur. Hein? Vous ne croyez pas? Pourquoi vous me recevez ici? Parce que j'ai un nom, parce que... Comme un sportif, quoi. Comme un homme politique. Les gens pas connus. Dans les gens pas connus, le drame, c'est qu'il y en a qui font ce métier, qui veulent le faire, et qui devraient faire autre chose. Vous comprenez? Parce que c'est vrai, il y en a beaucoup. L'orchestre constitué, ça c'est très important. Parce qu'ils sont habitués, ils jouent ensemble toujours, donc il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il peut y avoir vient de moi, puisque ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais joué, et il est plus facile, plus tranquillisant pour les musiciens de jouer des œuvres connues depuis longtemps, quand ils se trouvent devant une partie avec des mesures à compter, surtout pour certains instruments qu'ils ne jouent pas tout le temps.
C'était forcément très rapide, c'était ça qui doit les gêner.
Non, et puis il fallait qu'ils se mettent dans le coup, quoi, un peu, c'est normal, c'est très bien.
C'est pour ça que vous avez eu assez de répétitions.
Non, mais enfin, je crois que ça va aller bien.
Mais c'est vous qui avez demandé à venir diriger cet orchestre de Nancy. Pourquoi Nancy?
Parce que j'ai un camarade ici qui est professeur de flûte à l'école de musique. Qui m'a dit, est-ce que tu viendrais là, etc. Il a vu des musiciens, il a vu le chef d'orchestre qui a accepté. C'est pour ça que j'aimerais bien le connaître pour le remercier, parce que c'est une chose rare.
Pourquoi voulez-vous diriger un orchestre? Pourquoi avez-vous voulu diriger un orchestre?
Le type qui conduit les trams, vous allez lui dire, pourquoi voulez-vous conduire les trams?
Absolument.
Et moi exactement, je fais un orchestre parce que je voulais, et on m'a toujours défendu.
Et maintenant,
il y avait le silence aussi.
Maintenant, en tant que chef d'orchestre, est-ce que vous êtes accepté?
Non, par les musiciens, oui. Par les musiciens, oui, parce qu'au bout de 10 minutes, il y a le contact qui se fait. Mais par les autres, les officiels, n'est-ce pas? Les officiels. Quelle horreur, madame. Là, j'arrête maintenant, je ne fais plus rien. Vous comprenez? Je ne veux pas me battre comme ça.
Mais pourtant, vous battez.
Ben oui, je me bats, j'en ai marre.
Pourtant, vous avez des projets.
C'est horreur, le truc. Le directeur de la musique, comment il s'appelle? Qui a fait un article sur... Laissez-moi parler, parce que c'est important, ça. Qui a fait un article contre moi dans le Nouvel Observateur. Fleuré. Après, j'ai connu. Et ce type, il est allé. Il disait que j'étais Miss Tinguette, dit à l'opéra, au Palais des Congrès. J'ai dit, mais toi, t'es pas Miss Tinguette. Moi, j'ai de belles jambes, alors. Hein? Vous savez, ça. Coupez pas, ça. Hein? C'est important, ça. Si vous me coupez, adieu, moi, je ne vous verrai plus personne. Voilà. Alors, il était directionnaliste, il est acteur de la musique. Vous comprenez? Et voilà. Il donne de l'argent à... Combien? 65% l'année dernière, Boulez a eu. Vous savez, coupez pas non plus ça. Boulez a eu 65% avec l'orchestre de l'IRCAM.
L'orchestre... Je ne coupe pas, mais je peux poser quand même une question. Votre projet, je ne sais pas où vous allez.
Mais il y a tout qui donne d'argent. Horrible, quoi. Je ne parle plus ça, je fais plus de musique, elle est marre. Voilà.
La preuve que non, puisque je crois, on m'a dit que vous alliez en Allemagne, en Belgique, à nouveau pour diriger des orchestres.
Comment?
Je dirigeais des orchestres imaginés quand j'étais petit comme ça. Et j'ai une vieille cousine de ma mère qui m'a vu il n'y a pas longtemps. Il me dit, tu te rappelles, Léo, sur les remparts, moi j'étais élevé à Monte Carlo. Et tu te rappelles, alors tu étais là, dans la rue, et puis tu dirigeais comme ça l'orchestre. Moi j'avais jamais entendu la musique pratiquement, quoi. Tu dirigeais et tu disais, ah, il n'y avait personne. J'imaginais comme ça dans la rue, et je lui disais, ah, toi t'es le tambour. Alors c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Alors j'allais à sa place, j'ai dit, regarde. Et puis je jouais le tambour, mais tout ça, j'étais tout seul, n'est-ce pas? Et c'est significatif. Parce que j'étais vraiment seul à faire ça. Et je pensais que tous les garçons, tous les gens, je pensais que tous les gens qui mangeaient, qui sortaient, qui chantaient, qui marchaient, qui prenaient le tramway, chantaient aussi à l'intérieur. Et un jour, je me suis aperçu que moi, je chantais, que forcément les autres ne chantaient pas et que j'étais un peu à part, quoi. Et ce jour-là, je me suis caché, j'ai eu un peu honte. Ça, c'est un truc terrible pour un enfant, vous savez.
Weber, danse, danse. Thank you.
plaisir extraordinaire, quoi, de prenez la vie de la musique morte sur du papier, sur une page, par des musiciens vivants, par des gens vivants, oui. Parce que la musique, vous savez, on dit que les musiciens entendent la musique comme ça, dedans, n'est-ce pas? Oui, on entend, on a le souvenir de certains instruments, mais lorsque c'est très compliqué, on n'entend pas les instruments, c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors lorsqu'on les entend, parce qu'on leur donne la vie, parce que, surtout lorsque, justement, parce qu'on est là, on est le type qui dirige l'orchestre, parce qu'il faut bien quelqu'un qui donne le mouvement, vous comprenez? Et alors ça, c'est un plaisir extraordinaire. Seulement, le problème, c'est que les musiciens doivent se mettre dans le coup, parce que habituellement, ils ne font pas ce genre de choses. Ils jouent de la musique la plupart du temps qu'ils connaissent déjà. Édite symphonique, alors tout le monde se met là comme ça, ou que ce soit, comme je dis, contemporain, vous voyez, alors là, c'est à genoux, vous comprenez? Je ne parle pas des musiciens, je ne comprends pas les musiciens. Les seuls musiciens qui jouent cette musique, vous voyez? Parce que c'est leur métier, moi je me lèverai, je dirais, moi je ne joue pas cette musique, monsieur. Ça n'existe pas, ça. Vous avez vu un musicien qui s'est levé en disant, je ne joue pas votre musique, monsieur. Pourquoi? Parce que c'est de la merde. Et je m'en vais. Hein? Difficile, ça. Hein? La décision qu'on peut prendre envers quelque chose, et puis le courage, ça n'existe pas. On est ce qu'on est, vous comprenez? S'il fallait se dire, j'ai du courage pour faire ça, alors moi j'aurais pas de courage, j'aurais peur, vous comprenez? C'est pas une qualité d'avoir du courage. C'est le caractère même de quelqu'un.
Oui, vous n'en avez pas marre quand vous tendez un micro?
Non, je fais mon métier, vous faites le vôtre. Et quelqu'un, il faut. C'est pas indispensable qu'il y ait un accord, quoi, chacun. J'ai besoin de vous avez besoin de moi, enfin, de moi, enfin, des gens qui font le métier que je fais. Alors, il n'y a pas de problème.
Je viens pas pour le boulot comme ça. Moi, je viens parce que c'est Léo.
Oui, d'accord. Ben, alors, tant plus.
Non, mais quand on écoute vos interviews, j'ai l'impression qu'à la longue, ça doit être assez agaçant de vous entendre toujours parler ou poser la même question sur 68, quand c'est pas une question sur Léo Ferré et sur le phénomène de longévité.
Oui, je sais bien, mais c'est comme ça. Je peux pas l'éviter, alors je me rends compte. Je mets à la place des gens aussi qui me posent des questions parce qu'ils m'ont jamais vu la plupart du temps, c'est toujours des nouveaux. Et forcément, ils me posent ces questions. Alors, je ne peux pas les être désagréable avec eux. Je comprends très bien qu'ils disent ça.
Moi, je ne suis pas Léo Ferré. Moi, je suis comme ça, je suis Léo, quoi. Oui, j'aime pas quand on dit. Ça, c'est une façon de parler Que pense Léo Ferré de Léo Ferré? Je pense rien. Moi, je suis un type comme vous, un type comme Pernelle. Chacun fait ce qu'il doit faire. Lui joue de la flûte. Vous faites de la télévision. Et moi, je fais de la musique, vous voyez. Et alors, vous savez, l'histoire du mythe et de l'idole, j'essaye de casser ça dans la tête des gens. Non, mais c'est pas possible de casser le mythe. Il y a des gens qui je me rends pas compte, parce que les gens sont dans une salle, ils me voient sur une scène, après l'avoir écouté pendant longtemps, même sans jamais m'avoir vu. Alors pour eux, je deviens quelque chose. Je suis pas dupe. Vous savez, l'idole n'a pas le droit d'aller faire pipi. Et moi, je dis que je vais faire pipi. Alors voilà, alors je casse l'image dans la tête des gens. J'ai tort. Si on me prend pour le Christ, alors je suis le Christ. Et voilà, et pourquoi pas. 68, personne ne l'avait prévu. Hein. Personne n'a fait 68, d'ailleurs, ça s'est trouvé comme ça parce que ça devait se faire. Vous savez, ça a été provoqué par à Nanterre, par des étudiants qui demandaient à ce que les filles puissent aller les voir. Voilà. C'était ça, Cohn-Bendit. Vous savez ça. C'était comme ça, ils étaient 22 ou 23. Et ça s'est transformé, parce que ça devait arriver. Vous comprenez. Et c'est fantastique parce que c'est la. Comme disait un de mes camarades, c'était la seule fois au monde, dans l'histoire, que l'intelligence collective s'est révoltée. L'intelligence est toujours solitaire lorsqu'elle se révolte, soit les savants, les artistes. Là, c'était collectivement et sans armes. Ce qui inquiétait les gens du gouvernement de cette espèce d'incroyable Pompidou, vous savez, là. Hein, qui était le premier ministre de ce général-là. dont j'ai tendance à oublier le nom en ce moment. Comment il s'appelait ce général là? Ah là 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 là, je ne me souviens pas. Il avait un premier ministre qui s'appelait Pompidou, et qui... Ils ont été inquiets, n'est-ce pas?
68. Il s'en fout, mon dicteur.
Je n'ai jamais voulu l'imposer. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait, je fais ce que je fais. Il y a eu une porte ouverte, qui est encore un peu ouverte, il suffit de pousser, ce ne serait pas très difficile. 68, c'est une date importante, beaucoup plus importante que 89, je l'avais dit un jour à Revel, qui était directeur de l'Express. Il m'avait rayonné, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, oui, tu verras, plus importante que 89. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que 89, c'était fait une révolution faite par les bourgeois, hein, c'est vrai. Ô combien? Et puis par ces gens qui ont pris la terreur pour une façon de vivre, et qui a été pour eux aussi une façon de mourir, vous comprenez? Sans doute se passer à la tête, hein? C'est pas mal, ça, au fond. Et puis, vous savez, alors j'ai dit, regardez, aujourd'hui, il y a un gouvernement dit de gauche, hein? Eh bien, en 81, on ne savait pas ce qui allait se passer, je pensais qu'il y avait quelques temps après l'état de grâce, quand ça a commencé à tourner mal pour la politique de... Parce que de toute façon, les autres ne peuvent pas supporter que ces gens-là soient au pouvoir, les gens de droite, vous savez. Oui, il n'y a jamais un homme de gauche actuel qui ait dit à la télévision un jour, voilà, nous sommes ici, bon, c'est d'accord, d'accord. Il y a combien d'années la gauche a été au pouvoir en France, depuis 1789? Si vous faites bien le calcul, 2 ans, 36, 37. Hein?
Oui.
Voilà, c'est vrai. Alors, vous comprenez qu'ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas tout faire.
On vous a posé évidemment des questions sur la musique, puisque vous venez diriger l'orchestre de Nancy. Moi, j'aimerais vous poser une question sur le texte. J'ai l'impression que Léo Ferré, c'est aussi un grand magicien du texte. Quelqu'un qui a l'amour de la syllabe, l'amour du mot, et pas seulement pour le sens, mais aussi pour la musicalité du mot.
Ah, sûrement, mais ça, c'est pas volontaire. Hein.
Ça vient d'où?
Je sais pas. Alors ça, c'est difficile à dire. Vous savez, l'autre jour, j'étais au restaurant à Monaco avec ma femme, et de loin, on a vu qu'il y avait un de mes camarades d'enfance qui est un comédien. Hein. Et Marie me dit, écris-lui une lettre comme si c'était un mot, comme si c'était une fille, et puis tu dis, tu l'as vu et tout ça. Alors j'ai fait ça, je lui ai écrit. Et je lui ai écrit quelque chose de très sérieux concernant son métier et tout ça. Et j'ai commencé, j'ai mis un mot, je ne savais pas ce que j'allais dire. Vraiment pas. Et ça, c'est comme ça que j'écris, et les choses en prose que je fais. Hein. Et c'est pour ça que pour faire comprendre, je dis que je suis dicté, que j'ai un magnétophone, que je suis dicté, que... un jour j'ai dit que je suis le porte-parole d'un monde perdu, d'une façon très, très discrète d'ailleurs. Et c'est un peu ça, vous savez, on est les enfants de toute une tradition, de toute une culture millénaire et plusieurs fois millénaire, beaucoup plus millénaire qu'on ne croit d'ailleurs. Et il se trouve que moi je suis né en 1916, que j'ai mon nom, que je fais ça.
Hier c'était Baudelaire, c'était Rimbaud, c'était Verlaine. Oui. Aujourd'hui c'est Pavèze avec un texte superbe. Il y a aussi le besoin de se dire que tôt ou tard on est le truchement. Avec son texte, ses textes propres, et avec les textes des autres quand ils vous ont touché.
Oui, en tout cas, ce texte-là, je me souviens, j'avais mis... Je ne sais plus pour quelle raison, je devais, avant 65, 66, je devais aller chanter en Italie, j'avais mis ce texte en musique, vous savez, à ce moment-là, vous savez. Et j'ai fait un disque d'ailleurs, 45 tours, qui a été absolument mis dans l'oubli immédiatement, parce que j'avais demandé à l'éditeur qui s'occupe des droits de Pavèze, qui s'appelle Einaudi, je lui avais écrit, il ne m'a jamais répondu, vous comprenez, pour lui demander l'autorisation. Alors j'ai pris moi-même l'autorisation, quoi. C'est un très beau texte italien, et lui c'était un type assez extraordinaire, ce Pavèze. Et je dis bien qu'il est mort, il s'est suicidé pour des raisons très très personnelles. C'était un type qui n'avait pas... Je parle d'une façon simpliste, pas de chance, avec les femmes. Je ne peux pas dire que j'ai des chances avec les femmes, mais moi, si je n'avais pas de chance avec les femmes, ça m'arrangerait, vous voyez. C'est vrai, je ne me tuerai jamais de la vie.
Je suis accompagné par Jean Bizot au piano, par Jacques Pernel à la flûte.
L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde in un pezzo di pane. In prigione sognava le lepri che furono sul terriccio invernale nella nebbia d'inverno. L'uomo vive tra muri di strade bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane, in un pezzo di pane. Uno crede che dopo rinasca la vita, che il respiro si calmi, che ritorni e le lepri le han prese e le mangiano al caldo, gli altri allegri bisogna guardarli. Dai vetri l'uomo solo osa entrare per bere un bicchiere quando proprio si gela e contempla il suo vino, il colore fumoso, il sapore pesante, mordi il pezzo di pane che sapeva di lepri in prigione, ma adesso non sa più di pane né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia, non sa che di nebbia. L'uomo solo ripensa a quei campi, contento di saperli già arati, nella sala deserta sottovoce si prova a cantare, rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde da un fischio alla cagna. E compare la lepre e non hanno più freddo. L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde un pezzo di carne, di pane. In prigione sognava le lepre che fuggono sul terriccio invernale. Nella nebbia d'inverno l'uomo vive tra muri di strade, bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane.
J'ai trouvé un enregistrement que je vais proposer aux auditeurs, qui est un enregistrement des années 50, absolument extraordinaire, qui s'appelle « De sac et de corde », avec la voix de Gabin,
oui.
Avec les frères Jacques qui jouent les 12 apôtres.
Oui.
C'est un oratorio, c'est un texte éblouissant, et c'est un texte de 1984.
C'est un texte de 1950.
Non, de 1984.
Bon, alors, voilà. Et j'avais connu Gabin par l'intermédiaire de Yvan Audouard, qui était un ami à moi. Il avait accepté de faire ça, il l'a fait très bien. Et ce qui m'avait plu beaucoup et étonné, c'est qu'il disait les vers comme il parlait au cinéma, quoi. Il n'avait aucune intention d'acteur, vous savez. Moi, j'ai très bien connu André Breton, qui n'était pas un acteur, qui lisait très bien la prose. Dès qu'il lisait la poésie, c'était la fin du monde, n'est-ce pas ? Comme Aragon, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Il faisait... Vous savez ? Et ça, je sais pas, c'est une erreur que les gens font. Donner des alexandrins à lire à quelqu'un, il lira comme ça, comme si le poète avait dit des choses d'une audio d'une chair, n'est-ce pas ? Non, je crois que c'est faux, ça.
Le poète est aseptisé, il est masculé, c'est un pur esprit pour le grand public, non ?
Oui, sûrement, oui. Enfin, quoi.
Mais ce texte est absolument étonnant. Pourquoi ne pas l'éditer? Pourquoi ne pas le sortir en disque? Moi, j'ai découvert en même temps l'Opéra du Pauvre et oui. de Saquet de Cordes.
Oui.
Par hasard, par le plus grand des hasards.
Oui.
J'ai dit, mais... Je dis pas que tout est là, mais beaucoup te fait réel.
Oui, c'est un moment où j'écrivais en attendant, quoi. C'est ça. Et pour De Saquet de Cordes, j'ai eu la chance d'avoir Gabin, bien sûr, quoi. Avec une façon d'enregistrer à ce moment-là qui était... qui, ouais. on comprend que c'est vieux, mais pas pour Gabin, en tout cas.
Non,
heureusement.
Quand on s'est rencontrés sur le tournage de Granville, vous m'avez dit que les personnages de Granville vous passionnaient, tous ces animaux qui
c'est
parlent.
J'ai ces livres, c'est un génie du dessin, alors c'est extraordinaire. Granville, les métamorphoses, et puis l'autre, là, comment s'appelle le grand livre?
Les fleurs animées,
ouais, fantastique.
Les scènes de la vie publique.
Voilà, extraordinaire. Ouais. Et.
Je venais vous pourquoi. Proposer, je sais pas moi, j'hésite à dire un opéra, mais une sorte de partition pour ces animaux. Ça marche très bien sur les enfants, je dis ça comme ça.
Oui, je sais, mais vous savez qu'il y a longtemps que je veux faire un disque pour les enfants, surtout depuis que j'ai des enfants. Et puis je suis toujours pris, je n'arrive pas à m'y mettre. Quoi. Et le jour où je m'y mettrai, je sais que ce sera très vite fait, très vite fait. On va éviter ça, mais je n'aime pas beaucoup les chansons. Dès que le prélude intervient, que les gens applaudissent, oui. Enfin, c'est comme ça. On voit que c'est pas mal, mais je veux dire que les gens s'intéressent à la chanson parce que c'est court et ça leur ressemble aussi. Notamment en ce qui concerne cette chanson qui ressemble à tout le monde. C'est pour ça que les gens l'aiment, n'est-ce pas? Mais. Alors, en ce qui concerne donc avec le temps, j'étais en Italie, il y avait ma belle-sœur, Marie était aux commissions, et j'ai fait cette chanson, Paroles et musique, en 2 heures, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Vraisemblablement, j'avais peut-être besoin de la faire pour moi.
Elle est remplaçable, il ne faut pas hésiter.
Vous avez des enfants, comment vous les regardez?
Ah, je les regarde, quoi, je les écoute.
Ils vous échappent, bien sûr.
Non, mais c'est normal, hein, parce que c'est eux-mêmes. Hein. Ils ont leur façon d'être, puis leur façon de parler aussi. Chez moi, Marie dit que Mathieu me ressemble, parce que Mathieu, c'est un râleur. Alors si... Je suis peut-être râleur comme ça maintenant, mais quand j'avais son âge, j'étais pas râleur, parce que à la maison, chez nous, on râlait pas. Hein. Ouh là 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 là.
Vous parlez dans un d'une interview, plutôt dans les analyses de souvenirs, vous parlez des années de douleur muette, en parlant de l'enfance,
oui.
en parlant de la pension des frères de Bordighera.
Oui. C'est pour ça que j'ai enfoui toutes ces maladresses, toutes ces rancœurs, et c'est la raison pour laquelle ça sort maintenant, vous voyez. Si j'avais pas été au collège, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit, je crois pas. Je dis ça comme ça, hein, mais vraisemblablement pas, non. J'ai appris... l'inutilité d'un tas de choses, j'ai appris le désordre de ce qu'on appelle le catholicisme, n'est-ce pas, et la messe et l'immense bêtise des gens, n'est-ce pas, qui s'en remettent à quelque chose. Il vaut mieux s'en remettre à Bakounine qu'à...
Ou à Beethoven
qu'à Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux. Mais allez dire ça aux gens.
C'est ce que vous disiez dans les temps difficiles, les 3 fois,
ah,
à la
oui.
fin.
Ah, je me souviens.
Les temps sont difficiles.
Parce qu'on arrive quelque part, on ne se rend pas compte des problèmes qu'il y a dans l'endroit où on arrive, vous comprenez? Parce que sinon, je ne pourrais vivre nulle part si j'allais dans un endroit où les choses... Si j'en côtoyais vraiment la misère tous les jours, je pourrais plus vivre. Vous savez que ce que je ne vois pas n'existe pas. Et ça, c'est vrai pour vous aussi. Et heureusement, sinon, on ne pourrait pas vivre. J'ai un projet. Les gens le font pour moi, pour mon métier. Le seul projet qu'on puisse faire, tout en essayant de le faire le plus lointain possible, c'est la mort. que j'aime vivre. Vous savez, quand on est tout seul, on meurt tout seul. Vous savez ça. Entre les dates, il y a des faits divers que la plupart du temps, on vous impose. Je le dis tous les soirs dans mon tour de chant, au piano. Et si vous voulez choisir vous-même vos faits divers, c'est très difficile, je vous le souhaite, mais... Alors vous mourrez tout seul, ou... Alors soyez seul. Ayez le sentiment que vraiment que vous êtes seul, physiologiquement, ô combien. Puisque vous êtes malade, je ne veux pas vous aider, moi. Hein? Je peux vous chercher un docteur formidable, tout ça. Si vous êtes malade, je peux pas dire, donne-moi ton mal pendant un quart d'heure. Et je te le rendrai. C'est ça la solitude. Hein? Eh oui.